Qu'est-ce qu'elle va faire avec la peur?
Ce n'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes. Cette conversation mondiale...
La parole appartient moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pose et réfléchir.
Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial, une conversation mondiale, comme tous les vendredis, consacrée ce soir à la façon de parler des nombreuses crises que nous traversons aux enfants. À l'ordre du jour ce soir, que pouvons-nous dire aux enfants? Comme le réchauffement climatique et l'extinction des espèces, le virus ne se voit pas à l'œil nu. Il faut des enquêtes, il faut des graphiques, il faut des cartes pour rendre tangibles des réalités trop vastes ou trop petites pour nous. L'immensité de la Terre ne se laisse pas embrasser d'un coup d'œil, pas plus qu'un petit virus inconnu jusqu'alors. Comment aborder ces crises multiples qui ne se résument pas à des guerres avec des ennemis d'un côté et des alliés de l'autre, mais à des situations complexes où les peurs ne peuvent être combattues simplement? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités ce soir, avec Lydia Georges. Bonsoir Lydia Georges.
Bonjour.
Vous êtes bonjour. Vous êtes écrivaine, vous êtes autrice de nombreux romans, Le rivage des murmures, Le vent qui siffle dans les grues, Les mémorables, et plus récemment, c'était l'année dernière, Estuaire, chez Anne-Marie Métellier. Et nous remercions d'ailleurs Anne-Marie Métellier qui a traduit pour nous le texte que vous nous avez confié, qui est maintenant en ligne sur le site de France Culture à la page Une conversation mondiale, un texte dont on va débattre dans un instant avec vous, justement, sur le rapport aux enfants vis-à-vis de la crise que nous traversons. Et avec nous également, pour dialoguer avec vous, Fabrice Mecchio, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur de nombreuses pièces de théâtre, une soixantaine qui sont traduites et jouées dans le monde entier. On se souvient évidemment de Bouli Miro et de toute cette série autour de Bouli. Vous êtes également directeur général du théâtre Amstramgram de Genève, le centre international de création pour l'enfance et pour la jeunesse. Je vais commencer avec vous, Fabrice Melchio, simplement parce que vous avez peut-être entendu dans le journal de France Culture tout à l'heure le coup de gueule de Charles Berling, la façon dont s'organisaient des hommes, des femmes de théâtre, du spectacle vivant, du cinéma et de tous les milieux de la musique pour pouvoir réagir aux annonces de report à l'ouverture des théâtres et des salles publiques à partir du 15 décembre, telle qu'elle avait été préalablement annoncée. Vous, vous êtes à Genève, mais vous aviez des spectacles qui devaient se jouer dès la semaine prochaine, en particulier au Théâtre de la Ville. Alice traverse le miroir, d'après Lewis Carroll, donc dans une mise en scène de Emmanuel de Marcimota. Mais vous aviez aussi des spectacles à Genève, et c'est le même cas à Genève qu'à Paris?
Oui, alors on a justement appris en début d'après-midi que finalement le Conseil fédéral prenait la décision de fermer les théâtres a priori jusqu'au 22 janvier sur l'ensemble du territoire suisse. Donc voilà, on a reçu la nouvelle aujourd'hui, alors que l'annonce nous était promise d'une réouverture au 19 décembre ici. Donc évidemment que c'est une nouvelle partie de la programmation qui nous est dérobée, mais ça, j'ai envie de préciser en tout cas que là, je crois que c'est important de nommer qu'on est bien au-delà du lamento d'hommes et de femmes qui voudraient s'exprimer à travers leur art. C'est-à-dire que c'est pas qu'on se lamente de devoir se taire, c'est que je crois qu'il y a une objection qui est une objection salutaire à des élus qui au fond par leur décision renvoient la culture au rang d'accessoire et qui ne saisissent pas que la fréquentation des arts puisse participer activement de la santé mentale, de l'équilibre d'une population. C'est ça, que s'il y a de la colère, du dépit, de l'incompréhension, c'est bel et bien parce que ça, qu'on je me positionne comme directeur de structure, c'est que face à cette crise, nous voulons participer. C'est-à-dire que nous avons envie de participer, tout simplement. C'est-à-dire de jouer un rôle qui pour nous est un rôle poétique, je dirais. C'est-à-dire que nos structures sont des structures de consolation, c'est-à-dire des espaces de consolation, sont des espaces de réparation, sont des espaces qui essaient d'entretenir du lien. Et que pendant de longues semaines, on a travaillé au sein des maisons à essayer d'établir des plans de protection alors qu'on n'a pas forcément de formation pour ça, mais on a pris le temps qu'il fallait pour le faire avec sérieux, pour essayer de garantir la sécurité de nos spectateurs. On a eu quelques petites fenêtres à la rentrée pour éprouver que ces plans de protection fonctionnaient. C'est-à-dire que nous étions en mesure de garantir la protection des spectateurs qui venaient dans nos maisons. Alors voilà, c'est pour ça que c'est intolérable, c'est véritablement éreintant. Et c'est éreintant pour les équipes dans les structures, les équipes permanentes, parce que nous, au sein des maisons, mais c'est aussi le cas pour les compagnies indépendantes, pour tous les artistes, pour les techniciens, pour les auteurs, pour les autrices, pour les spectateurs, nous vivons avec une promesse, qui est celle de l'Assemblée. C'est la promesse de l'Assemblée. Or là, nous voilà sans promesse. Voilà. Alors,
Et c'est d'autant plus difficile avec vous, pour vous, Fabrice Melchiot, que dirigeant un théâtre pour l'enfance et la jeunesse, il y a cette double contrainte qui est que aussi cette enfance, cette jeunesse, dans la crise que nous connaissons, a été plus ou moins pointée du doigt. On a dit non pas les adolescents, évidemment qu'on a accusé de vivre sans contrainte dans une société qui devenait une société de contrainte, mais ces mêmes enfants dont on a dit bien ils portent le virus, et ils sont peut-être responsables de ce qui peut arriver dans leur propre famille quand ils reviennent de l'école ou de l'extérieur. Et j'imagine que vous avez pu en discuter, ou vous aviez l'intention d'en discuter justement, puisque vous travaillez, Fabrice Melchiot, dans des ateliers pour développer l'imaginaire, la façon de d'aider à la capacité d'expression des enfants en même temps qu'ils sont spectateurs de vos propres spectacles.
Oui, voilà, ces espaces-là, pour l'instant, continuent d'être habitable, hein, puisqu'on a la possibilité d'animer des ateliers jusqu'à une quinzaine de participants. Moi, je suis confronté à des enfants et des adolescents qui sont tout à fait conscients de ce qui se passe, qui sont extrêmement attentifs, qui, au sein des ateliers, ne quittent jamais le masque qu'ils ont sur le visage. Alors, je ne sais pas si je suis là pour les aider. Je suis en tout cas là pour les écouter.
Pour les entendre.
Voilà, pour les entendre. Peut-être aussi pour venir avec une l'expérience d'un langage, voilà, d'une pratique qui est l'écriture, et qui est une pratique qui me permet de forer le monde, c'est-à-dire d'essayer de creuser quelque chose du monde et du présent. Alors voilà, je me positionne peut-être là avec comme des ouvroirs, des poussoirs, des racloirs, en tout cas des outils qui nous permettent de gratter un peu le présent pour essayer de se mettre en chemin vers des phrases. Alors peut-être que par ces outils, effectivement, on peut dire que nous nous aidons les uns les autres à comprendre.
Lydia Georges, vous nous avez fourni un magnifique texte pour la Conversation mondiale, et c'est lui qui nous a profondément donné envie de faire cette discussion avec Fabrice Melchiot, puisque vous y expliquez dans ce texte effectivement que, quand vous aviez 13 ans, vous collectionnez des verres à soie, vous intéressiez à la question du verre à soie, et que effectivement il y a dans cette curiosité des enfants la volonté de voir grandir des espèces, des animaux sous ses yeux, une volonté de comprendre le monde, et vous faites toute un texte qui est une sorte de métaphore justement de ce que peut nous apprendre ce regard des enfants sur le monde. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette crise que nous traversons et de la façon justement dont soit on leur demande de parler, soit on les écoute? Puisque vous dites, qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants pour qu'ils puissent se construire sur quelque chose d'humain, sûr et cohérent? Et vous n'évoquez pas que la question de la crise de la Covid, mais également la question du réchauffement climatique et des dangers qu'il produit.
Bien sûr. Ma question, quand je me demande qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants, c'est parce que je crois qu'on est en train de traverser un moment très spécifique et très et qui nous défie à à trouver les formules, les paroles qui peuvent aider les enfants à comprendre le moment et surtout à le dépasser, à supporter avec espoir. Je crois que devant tout ce qui est en train de passer, l'important c'est de dire la vérité. C'est le plus important. S'ils nous demandent qu'est-ce qui se passe, il faut dire que nous ne sommes pas la première génération qui a subi une pandémie. Leur dire que l'histoire montre que beaucoup d'enfants, beaucoup de mamans, de papas, de familles ont passé exactement par ce problème. C'est cyclique dans l'histoire. Mais la question, c'est qu'on doit, je crois, leur dire que on est puissant, que nous sommes puissants, que autrefois, les enfants mouraient sans avoir la médecine pour aider. Et aujourd'hui, il y a la médecine. Il y a tous les instruments pour aider à dépasser la pandémie. On est capable d'envisager ce fléau avec espoir. Parce qu'on est fort, on est puissant, on est capable de dépasser les problèmes. Je crois que le plus important, c'est de montrer qu'on a une force, qu'on est capable. Leur donner de l'espoir pour dépasser. Et c'est à cause de ça que je pense que pour les enfants, et j'ai l'idée que il y a plusieurs âges dans l'enfance. On ne parle pas à un enfant de 4 ans, comme on parle à un enfant de 14 ans, que si on pense qu'à 14 ans on est encore enfant. On doit changer l'apport. Pourtant, je crois que c'est absolument important de les mettre devant les instruments de culture dans ce moment. Et c'est à cause de ça que je crois que tout ce qui se passe partout autour de la culture est tellement, tellement triste. Exactement parce que, comme Melchior disait, les instruments de la culture sont des instruments poétiques, sont des instruments de beauté. Et c'est vrai que les enfants, ils ne savent pas, ils ne supportent pas encore leur liberté. Ils n'ont pas encore l'idée, ils ont une idée fausse encore de liberté. On est libre que, et la liberté est un poids des adultes, n'est pas un poids, n'est pas quelque chose que l'on puisse exiger aux enfants. Les enfants ne sont pas capables de supporter la liberté. Il faut leur donner des possibilités de penser que les cauchemars qu'ils ont autour de l'idée que de la maladie, de la mort, que on meurt et que rien ne passe après, tout est fini. Je crois que enfin chaque famille a sa réponse. Il y a il y a les familles qui donnent l'idée qu'il y a une métaphysique, qu'il y a une transcendance, qui disent cette vie c'est un passage. Pourtant il y a les autres qui ne pensent pas comme ça. Mais les uns et les autres se rencontrent sur les plateaux de la beauté. Et c'est la beauté qui donne cette idée de transfiguration aux enfants, qui leur donne de la joie, qui donne l'idée de la communion avec les autres. Alors je crois que à ce moment, avoir l'idée qu'ils font partie d'une famille, d'une communauté, d'un pays, d'un monde élargi, et qu'on peut faire quelque chose, et que les médecins et les autres personnes qui sont autour de la médecine sont capables de soulager. Pour moi, je crois que c'est le plus important de leur dire, ne pas laisser ni seul, ni impuissant.
Oui, pourtant, ces enfants, tels que vous les décrivez parfois, comme Bouli, Fabrice Melchior, ils ont la peur rivée au corps, comme le disait à l'instant même Lydia Georges. Comment faire pour que cette peur, qu'on leur transmet sûrement sans même le vouloir, puisse se changer en autre chose et faire en sorte justement qu'ils grandissent, disons, pas sans peur, parce qu'ils en auront toujours, mais avec une peur qui soit plus maîtrisable, telle que vous le décrivez dans vos propres pièces, Fabrice Melchiot.
Mais je crois que ce que Lydia vient de dire sur un travail contre l'isolement, alors peut-être pas la solitude, parce que la solitude est, au fond, on peut l'habiter de façon très très heureuse, mais en tout cas nommer qu'il y a à travailler ensemble contre l'isolement et pour la constitution de communautés. Mmh. Et de communautés, je suis évidemment sensible au titre de conversation mondiale. Mettons qu'une conversation mondiale commence par des micro-conversations, par une entrée en dialogue de deux individus, 3, 10, puis 15, et que le théâtre, j'écris d'abord pour le théâtre, et je crois que c'est parce que je suis spécialement sensible au fait qu'au théâtre on écrive dans l'attente de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on produit des textes qui nomment qu'ils sont incomplets, qu'ils attendent des corps, qu'ils attendent un regard. On invite à la rencontre. Je crois que pour moi ça c'est essentiel de le transmettre aux enfants, c'est-à-dire qu'il y a un courage et une force à prendre dans l'association, dans la collaboration, dans la constitution de petites communautés. Mmh. C'est pour ça aussi que je continue d'être très actif dans les ateliers de pratique artistique et que s'il y a bien une conviction dans ces temps très instables qui demeure pour moi, c'est dans la nécessité pour une société de renforcer les moyens qu'elle accorde à l'éducation artistique. À la fréquentation des arts dès le plus jeune âge, précisément parce que c'est l'apprentissage d'un langage qui permet de mieux saisir le réel et de ne pas se contenter du réel, de pouvoir le dépasser.
Avec la beauté dont parlait Lydia Georges. Avec la beauté dont parlait Lydia Georges tout à l'heure.
Bien sûr que la beauté qu'elle est une valeur consolatoire, c'est bien sûr, mais c'est aussi une objection. Il y a je l'espère, je veux croire que la beauté a une valeur révolutionnaire, qu'à travers elle on est dans un acte d'objection fort à ce qui semble se déliter autour de soi, et que même si on a le sentiment effectivement d'être dans un temps de crise, de crainte, de douleur, de comptage quotidien, de mort à l'hôpital, notre responsabilité, peut-être à nous adultes, rencontrant les enfants, discutant avec eux, c'est de ne pas oublier que voilà, c'est une phrase que je garde en secret dans le fond de ma poche à chaque fois que je rentre dans une salle de classe. Pour rencontrer des jeunes gens, c'est la citation célèbre de Kafka, c'est-à-dire quand on n'est pas capable de donner du courage, alors il faut se taire. Et qu'alors si on prend la parole, c'est pour transmettre. Lydia parle de l'espoir, mais une force, en tout cas. Une force, alors parce que nous sommes écrivains, je crois qu'on est convaincu qu'il y a une force à prendre dans ce pouvoir qui nous est accordé de faire langage, de tout simplement faire des phrases. Mmh. C'est-à-dire ne pas rester avec son nœud d'émotion à l'intérieur de soi, mais aller puiser dans ce nœud-là, avec un mot, puis un deuxième, puis un troisième, petit à petit commencer à articuler une phrase, c'est articuler sa pensée, et je crois qu'on pourra parler d'espoir quand on aura et on se sera senti un peu tous ensemble au service de ça, c'est-à-dire d'une pensée qui se remet en mouvement, vers du vivant, quoi. vers du vivant.
Vous écoutez La Conversation Mondiale dans le temps du débat du vendredi, une conversation mondiale entre Fabrice Melchiot, que vous venez d'écouter, donc qui est auteur d'une soixantaine de pièces de théâtre, qui est donc en particulier directeur du théâtre Amstramgram de Genève, le Centre international de création pour l'enfance et la jeunesse, et Lydia Georges, écrivaine, qui écrit parfois pour les enfants, et plus généralement, qui écrit de très beaux romans, dont le dernier s'intitule Estuaire, chez Anne-Marie Métellier, qui nous a confié un texte pour cette conversation mondiale que vous pouvez lire sur le site de France Culture. Elle se posait la question, que se posent les enfants? Pourquoi? C'est Anne Sylvestre. Vous savez qu'il y a les rediffusions sur France Culture à 20h des À voix nues avec Anne Sylvestre, et ce soir elle parlera justement de la façon dont elle écrivait pour les enfants. C'était un entretien avec Hélène Azéra.
Comment faire pour connaître vraiment tout, tout, tout? Couvrir toutes les fenêtres, creuser tous les trous, éclairer tous les mystères, tous les secrets de la terre, des montagnes, des rivières et des loups-garous, et des loups-garous. Comment faire pour comprendre quoi, n'importe quoi? Tout ce que l'on peut entendre et tout ce qu'on voit, trouver tout ce qui se cache, démonter tout ce qui marche, effacer toutes les taches, sans tâcher ses doigts, sans tâcher ses doigts. Il faut partir à la pêche avec des questions, avec un petit mot qui cherche à prendre les poissons. C'est un mot que rien n'empêche, qui ressemble à une flèche tordue comme une herbe sèche, comme un hameçon, comme un hameçon. Pour le mettre au bout d'un fil, il n'y a rien de plus facile. Mais ce mot, c'est qui, c'est quoi? Et comment donc se fait-il? Mais enfin, pourquoi? Pourquoi?
France Culture, on a conversé ça en mondial, on était un peu de débat.
La conversation mondiale, on vient d'écouter donc Anne Sylvestre, son fameux « Pourquoi il faut partir à la pêche avec des questions, il faut éclairer tous les mystères et tous les secrets de la terre ». Lydia Georges, c'est ce que vous expliquez, et c'est d'ailleurs le rôle que vous confiez à votre héros de Estuaire, le dernier livre paru en français chez Anne-Marie Métellier, qui s'appelle Edmundo Galeano et qui veut écrire un livre justement pour éclairer le monde. Un monde qui va mal, c'est ce que vous racontez dans votre roman, un livre immense qui évoquerait la transition du temps de la Terre au sein de l'univers, dites-vous. C'est ce qu'il veut faire, c'était Edmundo Galeano, mais c'est aussi ce que vous enjoignez d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, en particulier la question du réchauffement climatique qui vous préoccupe énormément, Lydia Georges.
Oui, bien sûr. Ce personnage, Edmundo Galeano, c'est quelqu'un qui a fait une expérience en Afrique où la terre est devenue déserte et
elle est devenue poussière.
Poussière, oui. Elle est devenue poussière et pas d'arbres, pas de pluie, et les gens ils sont enfermés dans un camp de personnes emprisonnées, et il a l'idée que si on ne recule pas dans l'exploitation de la terre et tout cet désordre dans laquelle on est mis, que la terre entière sera dans quelques décennies comme ce camp de gens concentrés là-bas en Afrique.
Parce que vous dites que nous sommes arrivés, et c'est ce que vous dites dans le texte que vous nous avez confié aussi à la conversation mondiale, que nous sommes arrivés à des proportions meurtrières de l'exploitation de la terre.
Bien sûr, tout le monde le voit, seulement des gens qui ne veulent pas le voir le disent non. Mais évidemment que on comprend que tous ces déséquilibres climatiques proviennent d'une exploitation qui est hors du normal, et cela a commencé depuis le 18e siècle. Mais les dernières années, ça a atteint un niveau est spectaculaire et très dangereux. Et le problème, c'est que la question de la fabrication des objets aujourd'hui qui sont dans un, sont fabriqués dans un numéro absolument scandaleux et qui ne vaut rien. Ils ne valent rien, on ne paie rien pour chaque objet, des objets inutiles et superflus et surtout inutiles et même dangereux. Et la désordre qui provient de cette accumulation d'objets absolument inutiles se traduit par des mains humaines qui ne travaillent pas, il ne s'agit pas d'un produit de produits faits par des mains humaines. Ce qui signifie qu'il y a presque des continents entiers qui sont en chômage. Il y a des sociétés entières qui sont à côté du profit de cette industrialisation sans ordre.
Et
cela provoque ce désordre de la Terre. Elle a une espèce de miroir. C'est le désordre de l'humanité. Les deux choses vont ensemble.
Mais comment en parler justement aux enfants, Lydia Georges, de cette situation catastrophique que vous êtes en train de nous décrire et que vous décrivez dans le texte que vous nous avez écrit pour la conversation mondiale? Comment en parler aux enfants?
Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui disent la vérité. Ce sont les enfants qui disent il n'y a pas de planète B. Et en le disant, je trouve cette phrase dans les pancartes, une phrase très dramatique, parce qu'au même temps qu'ils ont la conscience qu'il n'y a pas de planète B, ils savent qu'ils sont au milieu d'une civilisation, à la fin d'une civilisation, cette civilisation qu'on est en train de soutenir maintenant, et une autre que l'on admet qu'il sera une civilisation vers l'espace. Pourtant, l'espace est très loin. On ne trouve pas jusqu'à présent la réponse de quoi qu'il soit de l'autre côté du cosmos. Et je pense, et parfois j'écoute les enfants et surtout les adolescents et les jeunes qui se sentent perdus, qui disent « nous ne sommes de nulle part ». Où sommes-nous ? Ils sentent pour la première fois, les jeunes sentent qu'ils sont fils et enfants du cosmos. C'est pour la première fois qu'on éprouve absolument cette sensation qu'on est perdu dans l'espace, que la Terre, c'est quelque chose de très petit dans l'espace. Évidemment, il y a ceux qui sont capables d'avoir du courage, de la curiosité, ceux qui disent tout le monde va être astrophysique dans le futur. Et il y a les autres qui ont peur de ça.
Oui, justement, Fabrice Melchiou, vous n'avez jamais eu peur, vous, de mettre en scène des questions difficiles pour le théâtre que vous conceviez. Il y a très récemment une belle tribune dans Libération de deux auteurs d'album jeunesse qui s'appellent Oliver Jeffers et Sam Winston qui disaient « Est-ce que nous voulons publier dans quelques décennies le petit livre des animaux que tu aimais mais qui ont tous disparu de la Terre ? Est-ce que ces questions-là, par exemple, sont des questions qui sont importantes, qu'il est important d'aborder, comme d'autres questions qui tiennent au rapport à l'autre, à l'exclusion, à la pauvreté ou au racisme, par exemple, qu'il est important d'aborder quand on parle aujourd'hui des crises que nous sommes en train de traverser, Fabrice Melchiou ?
Bien sûr, parce que la question climatique, environnementale, sera au centre de, peut-être le principal combat à mener par mes enfants, nos enfants, et qu'alors bien sûr que ça peut apparaître au sein des fictions qu'on produit. Mais je crois que c'est une limite que je me fixe toujours, c'est de
c'est de ne pas imposer le désespoir à travers les histoires qu'on raconte à un lectorat, à des jeunes spectateurs.
Et donc il y a l'humour.
Ne pas imposer. Alors oui, il y a l'humour bien sûr, mais il y a une confiance dans une chose, c'est que on est au fond dans une double tension qui serait d'une part ne pas se laisser aller à une vision désespérée du monde, et par ailleurs ne pas céder systématiquement au happy end, et que dans cette double tension, on détermine un interstice qui est celui de la nuance, et alors on accorde une confiance aux enfants qui est leur capacité tout simplement à saisir des visions nuancées de certaines situations, de certains personnages, ce qui fait de la littérature jeunesse un champ exploratoire absolument formidable, très très ouvert d'un point de vue de la langue, d'un point de vue des histoires qu'on peut raconter, et évidemment que les grands problèmes de société peuvent s'inviter dans les fictions qu'on écrit, qu'on raconte aux enfants, à condition encore une fois qu'on les crédite pleinement, c'est-à-dire de leur capacité à déchiffrer la nuance qui pour moi est tout simplement le but de l'art. C'est ce que je crois que je cherche sur un plateau de théâtre, c'est ce que je cherche quand j'écris une histoire, et je crois que les enfants, c'est ce qu'ils réclament, c'est que face à un monde d'injonctions et volontiers catastrophistes qu'on sent un peu gouverné par la peur comme ça, qu'on puisse être au plus près, Lydia parlait tout à l'heure de la vérité, au plus près du vrai. Si je me sens une responsabilité, il y a peut-être celle-là, voilà, d'essayer de faire en sorte de restaurer la nuance dans leur univers et en leur compagnie.
Oui, et cette nuance, effectivement, ça pousse aussi à avoir un espoir. Lydia Georges, dans le texte qui a été traduit du portugais par Pierre Léglise Costa, le directeur de la collection bibliothèque portugaise de chez Métellier, où vous publiez, et que nous remercions de l'avoir fait, vous dites que c'est sur eux que on peut bâtir des espoirs, ces enfants de 13 ans qui ressemblent à la Lydia Georges que vous étiez quand vous aviez 13 ans. Qui possède des boîtes en carton avec des cocons de verre à soie, c'est peut-être à eux qu'on peut demander justement de nous donner un peu plus d'espoir, et ça n'est pas forcément à nous de leur donner de l'espoir.
Bon, ils créeront leur espoir même, mais il faut aussi pendant qu'ils ne peuvent pas encore faire le grand choix. On peut leur dire ce que Melchior vient de dire. On ne peut pas être catastrophique. On ne peut pas dire ça termine. On ne peut pas dire la mort est la porte de sortie. On ne peut pas dire ça. On peut dire que on est capable. On a la force. On est capable de dépasser la situation. D'ailleurs, la leçon de mon professeur de sciences naturelles, c'est qu'il a dit que à partir de la nature, le plus important, c'était la création humaine. Il a dit que le plus important dans la métamorphose du ver en cocon et le papillon et les œufs, le plus important c'était la soie que les hommes font les habits que les hommes font avec la soie. Pour moi, ça c'est important. Et d'ailleurs, il y a une autre dimension et je suis complètement d'accord avec Fabrice Melchior et avec vous-même, parce que vous avez parlé de secrets et de mystères. Et c'est vrai que une partie de la beauté est faite par l'idée que au-delà des éléments que l'on donne autour de la création de la beauté, il y a quelque chose qui excède, qui va au-delà de ce qui est montré. L'idée qu'il y a un secret et l'idée qu'il y a un mystère. Cela fait partie de la beauté. Pour moi, ça est absolument important que présenter dans la fiction et par le langage, le pouvoir du langage et le théâtre sont les deux, je dirais, les deux discipline, si on peut dire, de la littérature et de l'art, qui travaille avec la matière prime de la pensée, les paroles, le langage. Et en utilisant ça, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible en jouant avec la métaphore de dire aux enfants que nous ne sommes pas des animaux comme les autres, que nous sommes d'autres animaux et qu'on peut on peut maîtriser notre vie et qu'on peut maîtriser nos sociétés et surtout pour les plus petits, il faut absolument leur dire. Je ne suis pas psychologue, c'est seulement de mon expérience. Il faut leur dire que les gens qui ne sont pas bien sont peu, et que les gens qui sont bons, de bonnes personnes et qui veulent le bien sont plusieurs, sont beaucoup, sont immenses. Il faut dire que qu'ils ont quelque chose qui les protège. Et la littérature pour les enfants et la littérature pour la jeunesse et pour les lecteurs, parce qu'un adulte se met dans la peau d'un enfant en se laissant aller par la main d'un écrivain. On se laisse habiter par la beauté d'un livre, par l'enjeu des personnages. On se laisse aller comme un enfant. Quand on ouvre un livre, on se laisse. On est critique, évidemment, mais on se laisse aller par la beauté, par la beauté d'un livre. Et ces deux disciplines sont les disciplines qui essaient l'altérité, qui essaient la possibilité de dépasser d'un personnage à l'autre, d'essayer toujours être différent de nous-mêmes. Et l'enfant le fait très bien. L'enfant commence par s'imaginer un chat, un chien, un alligator. Il s'imagine d'autres animaux, il s'imagine aussi des plantes. Surtout parce que quand les enfants sont petits, ils ont l'idée que tout le monde est un peu anthropomorphique. Et ça, on ne dépasse jamais complètement.
Fabrice Melchior, justement.
On garde ce sentiment dedans.
Fabrice Melchior, vous vouliez réagir à ce que dit Lydia Georges, et en particulier, on est à très peu de temps maintenant, malheureusement, mais à cette idée que, effectivement, il y a ce sens de la beauté, mais cette beauté, elle est construite, et aujourd'hui, dans une société où on veut toujours passer derrière la coulisse, eh bien, on la démonte, cette beauté. On en montre aussi le caractère fabriqué.
Mais c'est peut-être aussi lui accorder une forme de complexité. Je vois pas ça forcément de façon négative.
Non, non.
Ce que je retiens aussi, c'est ça, j'aime beaucoup l'énergie avec laquelle Lydia transmet ses idées. Et pour moi, c'est un mot qui n'est pas anecdotique. C'est-à-dire que je crois que de la même manière qu'un livre, évidemment, est un c'est une forme, un bloc de pensée. Une fiction, c'est aussi une énergie qu'on reçoit. Moi, je sais que certains livres, comme Moby Dick, par exemple, c'est tout autant l'histoire, les personnages, la situation, que la formidable énergie que je reçois du livre, qui ont pu marquer mes lectures de jeunesse, et que c'est peut-être ça aussi qu'on peut partager avec les enfants, c'est ne pas laisser la situation actuelle entamer notre énergie. Ne pas laisser la situation attaquer nos corps. Essayer de continuer d'objecter avec nos outils. À ce qui abîme. Et rappeler que les enfants, eux, ne sont pas responsables de la situation. Cesser de les charger d'une responsabilité qui est notre responsabilité à nous, qui sont nos responsabilités à nous d'adultes, qui sont nos choix d'adultes. Et puis vraiment leur faire confiance.
Et oui.
Leur faire confiance.
Dans une société qui manque cruellement de confiance, c'est extrêmement important de faire confiance aux enfants. Merci en tous les cas à tous les deux pour ce dialogue donc entre Genève, où vous êtes Fabrice Melchior. Je rappelle que vous deviez avoir une pièce montée par Emmanuel de Marcimota au Théâtre de la Ville, mais elle va être filmée, je crois, Fabrice Melchior, et on pourra la voir, cette pièce en particulier.
Le 18 décembre.
C'est donc Alice le traverse le miroir. Merci à vous et je rappelle également que Lydia Georges, eh bien, on peut lire tous vos livres traduits chez Anne-Marie Métellier et en particulier le dernier très beau Estuaire, donc paru l'année dernière chez Métellier. Merci à vous d'avoir aussi participé à cette conversation mondiale en nous fournissant un texte inédit qui a été traduit donc par le directeur de la bibliothèque portugaise chez Anne-Marie Métellier. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richet, Hugo Boursier, Rémi Baille et Imane Gilles, à la technique aujourd'hui Alexandre Dang, à la réalisation Asia Ralid. Demain, dans le cadre d'un week-end spécial Océan sur France Culture, vous retrouverez à 18h10, dans un temps du débat du samedi, Raphaël Bourgois. Ça sera consacré à l'exploitation maritime durable avec Paul Touré, avec Éric Carcinti et François Chartier.